Small is Beautiful, c'est du 5 au 16 octobre, des spectacles, parcours et performances en espace public à Martigues, à Marseille et à Aubagne. C'est organisé par Lieu Public, c'est la 5e édition de cette manifestation. Et sur la Grenouille, c'est depuis vendredi dernier, le 7 octobre, jusqu'à samedi prochain, le 16 octobre, le samedi 16 octobre. Donc une émission quotidienne entre 18 et 19h où nous recevons les artistes de cette invitée, certains des artistes invités à participer à cette manifestation. Après Jean-Georges Tartar vendredi dernier, Laurent Petit samedi dernier de la NPU, et hier Laou et Théâtre à l'envers, nous recevons ce soir Pierre Sauvageau, compositeur et directeur de Lieu Public, le Centre National de Création des Arts de la Rue, et Stéphane Marin du groupe collectif, je sais pas, compagnie Espace Sonore. Alors Stéphane Marin, après un parcours en philosophie, après la découverte de la MAO et après avoir été assistant de Pierre Sauvageau, notamment sur les concerts de public dont on parlera au cours de cette émission, et des collaborations avec différentes compagnies d'art de rue dont Le Fun est à Marseille pour Small is Beautiful. Il était déjà à Marseille avant, bien entendu, travaillait avec Lieu Public, mais maintenant il habite dans le Volvestre, du côté de Toulouse, en Ariège. Et voilà, de retour à Marseille alors pour Small is Beautiful, Stéphane.
Et oui, de retour à la gare Saint-Charles, j'ai pris le train, je suis arrivé direct et voilà.
Et Pierre Sauvageau, donc fanfare militante dans les années 70, trompettiste free jazz, et puis après c'était décor sonore avec Michel Ries à partir de 85, il a fait des ballets mécaniques pour hélicoptères et engins de chantier, grand mix pour tambour du Bronx, voix bulgare et orchestre philharmonique. Bon, je vais pas tout décrire parce qu'il est boulimique de travail, Pierre Sauvageau. Il y a eu Allegro Barbaro à partir de 97, fondé l'orchestre de ville fondé à la suite d'un parcours d'artistes qui était une série de parcours qui avait été imaginé par Michel Crespin, le premier directeur et le fondateur de Lieu Public à Marseille. Il y a eu des orchestres de chambre de ville. En 2006, il y a eu Odyssée. En 2001, il est devenu directeur de Lieu Public. Il a mis en place les Sirènes Midi-Dette, l'année des 13 lunes, si, souvenez-vous, Chant harmonique, l'année dernière à Martigues d'ailleurs, 600 mètres d'installation sonore, 500 instruments avant. Et pour lui, c'est le développement de la création artistique en espace libre qui le motive. Bonjour Pierre Sauvageau.
Bonjour.
On va donc parler à la fois de la programmation de cette 5e édition de Small is Beautiful, mais surtout de un pépin pour deux d'Espace Sonore, et puis le concert de public qui clôturera cette 5e édition donc de Small is Beautiful. Stéphane, depuis le début de cette émission, on écoute des petits modules sonores que tu nous as proposés pour pour figurer dans cette émission, une sorte de chronique sonore. On va écouter une de ses chroniques qui s'appelle « À sec » et puis on parle juste après de ton travail.
Secret. Sec. Sec. Secrète. Sec. Sec. Secousse. Sec. Capteur. Sec. 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 Sécurité.
Sec, donc d'espace sonore et non pas à sec c'est autre chose. Donc Stéphane Marin, est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ces propositions là de petits modules sonores et de ce qu'on vient d'écouter, sec?
Donc en fait, notre travail dans la compagnie Espace Sonore est de venir composer pour dans et avec des espaces qui seront visités par un public qui est sous parapluie. Et qui va être muni de casques, et qui va écouter donc une proposition sonore qui a été faite pour ces espaces. Donc là, ce qu'on vient d'écouter, c'est une proposition qui a été faite pour le Festival de l'eau, pour les berges de la Marne. Donc c'était entendu le long des berges de la Marne, à Saint-Maur-des-Fossés, au mois de juin dernier. Donc c'était une commande pour travailler sur l'univers de l'eau, pour le Festival de l'eau. Donc en général, et en particulier, on travaille toujours pour ces espaces, spécifique, quoi. Leur raconter une histoire, s'en inspirer et jouer de sonorités ou montrer à voir par le sonore des choses qui sont en présence. Là, en l'occurrence, on a écouté un module qui joue un contrepoint sur l'univers aquatique et justement qui amène la notion de sécheresse au milieu de tout cet univers à queue.
C'est qui Espace Sonore? Alors c'est Stéphane Marin et qui d'autre?
C'est Emmanuel Ménis qui est donc compositeur, c'est Elisabeth Mas qui est co-auteur, c'est Bénédicte Dierix ou François Tariq Sardi qui sont preneurs de son témoignage, c'est Olivier Mani qui est cartographiste et c'est Elsa Théry qui est à l'accueil du public.
Et quels sont les projets que vous avez déjà menés, à part un pépin pour deux dont on va parler, qui va se dérouler là mardi, mercredi et jeudi, enfin qui s'est déjà déroulé aujourd'hui, mais qui va se dérouler encore pendant deux jours à la gare Saint-Charles, quel type de projet vous avez déjà mené?
Alors en fait, un pépin pour deux est le premier projet de la compagnie.
Très bien. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir travailler pour les espaces publics?
D'accord. C'est une rencontre, en l'occurrence c'est une rencontre avec la personne qui se situe à ma droite, qui est Pierre Sauvageau, donc, qui en 2003 m'a invité à rejoindre donc, le public, un poste plus technique. Et en fait, ce poste s'appelait décorateur sonore d'espace public, ou quelque chose comme ça. Et en fait, le travail autour des espaces publics, dans les acoustiques urbaines, m'a tout de suite intéressé, beaucoup plus que ce qu'on pouvait faire en studio ou dans la boîte noire, c'est-à-dire faire de la musique pour de la musique sans fond, de la musique sans contexte. Et en fait, c'est vraiment l'aspect contextuel, le fait d'aller dans des espaces et de plus en plus de ne pas les considérer comme un décor, mais vraiment d'aller à leur rencontre et de savoir qu'est-ce qu'ils nous inspirent, quelle rencontre peut s'établir entre... un travail de composition et des espaces. Ça c'est précisé d'année en année dans ce travail-là.
Comment il est dans le travail, Pierre Sauvageau? Alors, tu as été son assistant, c'est ça, pendant plusieurs années, sur concert de public notamment?
La phrase qui revenait souvent, c'est « Je voudrais pas vous inquiéter, mais tout va bien ». Voilà, ça décrit bien le rapport.
Et Pierre, comment ça se passait le travail avec Stéphane? Et quand tu vois son parcours là, ça t'inspire quoi?
Ce qui est très intéressant dans l'aventure Stéphane Marin, c'est la bascule entre le monde du technique et le monde artistique. Alors moi, j'ai toujours pensé que la technique, c'est de l'artistique quand même. Bien sûr, il y a des savoir-faire qui sont pas les mêmes, et entre quelqu'un qui est derrière une console son ou d'un ordinateur et puis quelqu'un qui apprend à jouer de la clarinette, mais c'est quand même désolant que dans notre petit monde des arts vivants, il y ait une telle séparation entre la technique et l'artistique. C'est pas vrai partout, bien sûr. Il y a beaucoup de compagnies, beaucoup d'orchestres auxquels la technique et l'artistique sont très proches. Ouais, même cette histoire d'artistique et technique, c'est presque dans ma propre histoire un moment important. Je veux dire, j'étais musicien, je jouais sur scène, et un jour, j'ai eu le malheur d'écouter ce que jouaient mes camarades quand j'étais dans la salle. Et j'ai trouvé ça tellement affreux que je me suis dit, c'est pas possible de limiter la production musicale à l'orchestre qui répète, qui joue sur scène, et puis à limiter limite, on ne s'en occupe pas. Donc, je me suis intéressé aussi à la manière dont il était amplifié, de la manière dont il existait dans le contexte. Et on arrive à la question du contexte. Donc, je crois que c'est un parcours assez passionnant, le parcours de Stéphane, parce qu'après, quand même, tu en as parlé tout à l'heure, mais après Lieu Public, où il était vraiment sur un travail très technique, il a travaillé avec donc, des compagnies importantes. On parlait du FUN, on parlait d'Osmosis, dans lequel son travail était vraiment un travail de création sonore et de création musicale. Hein, pareil, la frontière est ténue. Et moi, j'ai suivi ça. Et quand Stéphane est venu frapper à la porte de Lieu Public en disant « Ben voilà, j'aimerais bien passer directement à l'acte », on a d'abord dit non à la première proposition. Alors, il n'était pas content. Et puis, on a dit oui à la deuxième, qui est donc celle-là, le Pépin pour deux, qui commence à tourner dans Saint-Charles maintenant et puis demain et après-demain.
Alors, comment s'est née l'idée, Stéphane, de ce Pépin pour deux ?
Comment est née l'idée de Pépin pour deux? En fait, c'est pas mal en réaction avec l'échec de la première proposition, qui s'appelait Dérive, poème promenade dramatique, chorégraphique et sonore pour deux bergers et un pont, et où en fait j'avais abordé un gros travail d'écriture, et ce que je me suis rendu compte, et c'est peut-être pourquoi j'ai pas emporté l'unanimité, c'est que j'avais un rapport aux espaces qui était très symbolique. Donc une écriture finalement qui allait être une écriture sonore et textuelle symbolique par rapport aux espaces. Et ce qui s'est passé avec Un Pépin pour deux, c'est vraiment une volonté d'aller rencontrer des espaces spécifiques et d'écrire pour ces espaces, dans un rapport qui est beaucoup moins symbolique, qui est beaucoup plus déjà musical. C'est des choses qu'on peut aborder. Un travail de l'espace partition. Qu'est-ce que les espaces me racontent en tant que potentiellement des éléments que je vais pouvoir mettre en partition. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont nouveaux, des envies qui étaient nouvelles, et plutôt que finalement faire un travail qui, dans Dérive, allait être une proposition qui était dramatique, quoi, en fait.
Est-ce que tu peux nous décrire le dispositif de Un Pépin pour deux ?
Alors, en toute simplicité, un parapluie sur lequel est arrimé un lecteur MP3 et deux casques, dont munis les deux personnes du couple qui part... dans l'espace public. Et donc, il y a aussi tout un travail de balisage de cet espace public, de fléchage et de numérotation des pistes que les personnes en déambulation vont actionner à chaque fois qu'ils vont rencontrer des signes dans ces espaces.
À quoi sert le parapluie ? Parce que le lecteur MP3, il pourrait être dans la poche d'un ou de l'autre du haut.
Le parapluie... Pour moi, avant tout, on a évoqué la philo. La philo, mon thème de philo, c'était pour une philosophie de la rencontre. Dérive était un travail sur la rencontre, empêchée en fait par ses rives et possible par un pont. Et enfin, là, on a un dispositif beaucoup plus léger. Donc c'est aussi une réflexion sur ce qui s'est passé au préalable. Je voulais un dispositif léger, je voulais un dispositif qui prête à la rencontre. Ce n'est pas un parcours sonore qui se fait seul, c'est un parcours sonore qui se fait à deux. Nous allons partager une écoute. Et pour moi, c'est vraiment une grosse différence avec beaucoup d'autres parcours qui se font seuls. Donc le parapluie rapproche. On est dessous, on est coude à coude, on est empêché. Il y a beaucoup un travail du coup sur la mobilité dans l'espace public, on travaille beaucoup sur la mise en situation de l'auditeur. Et ici, on va se rendre compte, et en particulier dans cette gare, que circuler à deux sous un parapluie, c'est pas toujours évident. Et ça peut nous faire aborder des thèmes comme la mobilité et l'accessibilité.
Comment s'est passée l'écriture donc pour la gare Saint-Charles ? Quelles sont les matières que tu as utilisées, que tu as mis en place ?
Avant tout, on va donc aller capter. Comment dire ? Le principe d'un pépin pour deux, c'est 90-95% de matériaux originaux qui sont pris sur place. Que ça soit au niveau de l'écriture sonore, prise de son, in situ, que ça soit de l'écriture textuelle, écriture in situ. Et que ça soit de la captation de témoignages qui sont faits toujours in situ. Donc, qu'est-ce qu'on prend ? On prend dans un premier temps beaucoup de choses, et puis tout doucement, pendant la création, les choses s'orientent. On voit des conduites, on voit un fil rouge, on le dessine. Et à ce moment-là, j'invite mes collaborateurs à aller puiser des choses plus spécifiques, plus particulières pour tel et tel espace. Par exemple, prenons un exemple, on a décidé de travailler sur la mobilité sur un espace, on va aller avec une personne malvoyante visiter cet espace et le faire parcourir. Et plutôt que de lui poser des questions dans un studio, on va aller lui poser ses questions dans cet espace. Et ça fait vraiment partie intégrante de notre écriture d'espace et du sonore dans l'espace.
Bah, tu nous as amené un extrait de ce qu'on peut entendre en ce moment et encore jusqu'à après-demain sous ce parapluie de Un pépin pour deux. On écoute ça et on reprend la discussion juste après. Voilà, un extrait de Un pépin pour deux, donc ce qu'on peut entendre sous le parapluie à la gare Saint-Charles. Tu peux nous dire deux mots là-dessus, Stéphane ?
Ouais, c'est un morceau qu'on a appelé Vigipirate, donc je ne vous révélerai pas dans quel espace il va être diffusé. En tout cas, ça traite de ces petites caméras de surveillance qu'on peut trouver partout. Et ça met en relief aussi l'aspect voyeur qu'ont nos deux personnes sous parapluie, qui se trouvent métamorphosées des lieux, des humanités, des gens qui passent là, qui vont simplement prendre leur train, et qui sont tout à coup un peu les voyeurs de la vie quotidienne de ces gens-là. Donc on a voulu mettre là de nouveau en situation, c'est vraiment un concept phare de ce projet, c'est de mettre en situation les auditeurs. Le fait qu'ils soient en train de marcher, le fait qu'ils soient en train de voir, le fait qu'ils soient en train d'entendre, de tout le temps aller titiller ces choses-là de façon plus ou moins claire, plus ou moins subtile. Et ici, c'est la notion de voyeur qui est remis en abîme parce qu'il l'était juste avant. Donc, ils sont vus, ils regardent, et c'est ça qui est exprimé, avec l'aspect évidemment sécuritaire, que si on ouvre un peu les yeux à Gare Saint-Charles, on va vraiment constater.
La durée du parcours en couple et sous le parapluie dure une heure, ça correspond à quoi ?
On va dire entre 50 minutes et une heure, on est bien d'accord. La difficulté pour écrire ce type de parcours, c'est de savoir à quelle vitesse vont marcher ces deux personnes. On va dire qu'il y a des temps moyens. Il y a des gens qui sont très très lents, il y a des gens qui sont très rapides, qui se connaissent, qui arrivent à marcher à deux très rapidement. On joue sur ça, il y a des moments de resynchronisation de la bande, et puis après, est-ce qu'une personne arrive un peu avant ou un peu après quelque chose qu'on a à voir et dont on parle dans la bande, tout à coup ça donne deux visions de la chose. Est-ce qu'on m'en parle après que je l'ai vu ou est-ce qu'on m'en parle avant que je l'ai vu ? Ça marche toujours.
Tu parlais de rencontres, de comme ça, être... pour eux, à l'environnement, tout ça. Pourtant, quand on se promène, quand on voit les gens se promener avec des casques en ville, on se dit, mais c'est vraiment, on ne peut pas rentrer en contact avec eux. Et on a l'impression qu'ils s'isolent complètement, justement, du monde extérieur. C'est un peu paradoxal, l'utilisation du casque pour ce type, dans ce type de discours, du coup, de porosité, de rencontre.
Yes, tout à fait. Et notre travail est très paradoxal parce que, comme on a pu l'entendre là, il y a vraiment un travail là de bouchage d'écoute. Par contre, on travaille beaucoup la mise en silence, c'est-à-dire qu'on crée des micro-coupures de silence ou des moments où on travaille sur des nappes où elles viennent vraiment se frotter à la réalité. Et là, je ne révélerai pas le parcours, mais il y a quand même un travail qui est fait là pour, un certain nombre de fois, boucher l'écoute pour amener à mieux la révéler. Donc, c'est vraiment un travail de masquage pour pouvoir dévoiler le réel. Mais en effet, un pépin pour deux vient aussi réagir sur le fait qu'il y a un isolement contemporain dans le casque.
Pierre, tu as fait la promenade sous le parapluie ou pas encore ?
Absolument pas, absolument pas.
Je vous propose, c'est donc une émission consacrée à Small is Beautiful. C'est une émission dans laquelle on écoute pas mal de chroniques réalisées par différents participants à cette manifestation, ou même pas de participants du tout, comme Nicolas Mémin qu'on entendra tout à l'heure, urbaniste Gonzo, qui nous propose chaque soir une promenade du jour. Mais pour l'instant, on va écouter la chronique signée Laurent Petit, donc qu'on recevait samedi dernier, qui est membre de l'Agence nationale de psychanalyse urbaine et qui donc nous livre ses analyses de, enfin sa psychanalyse urbaine du Grand Marseille.
Bonjour à tous. Donc, pour vraiment comprendre la problématique du Grand Pas Marseille, c'est-à-dire la problématique de ce Grand Marseille qui a du mal à se faire, au point que les villes avoisinantes sont en train d'imaginer un contre-projet qui s'appelle donc le Grand Pas Marseille, je voudrais revenir sur le cas d'Aubagne. Le cas d'Aubagne que nous avons étudié dans le cadre d'une opération que nous avions baptisée Aubagnol, parce que Marcel Pagnol est originaire de cette ville. Et c'était d'autant intéressant qu'on s'est vite aperçu que Aubagne est une ville encerclée par les autoroutes. Elle est coincée à 30 km de Marseille entre un triangle d'autoroutes, c'est tout à fait étonnant. Et c'est donc une ville qui souffre d'une névrose automobile sans précédent. En plus, son rapport avec Marseille est assez sulfureux puisqu'on a remarqué que ce triangle d'autoroute était, on va dire, presque pénétré par un chemin de fer qui rentre dans ce triangle d'autoroute à la manière d'un phallus géant. Et ce chemin de fer vient de Marseille au point que les Aubagnolais l'ont surnommé le chemin Gaston, chemin de fer, chemin Gaston. C'est une blague locale qui fait une sorte de galéjade, si vous voulez. Et pour lutter contre cette profanation inconsciente via un chemin de fer surnommé chemin de Gaston, on a carrément proposé à Aubagne d'édifier des remparts sur cette autoroute, mais pas des remparts en béton, mais des remparts d'habitation. On s'est dit pour lutter à la fois contre la profanation venue de Marseille et l'étalement urbain et l'invasion automobile, pourquoi ne pas construire des habitations sur l'autoroute même ? Et on en est venu au projet pour autoroute astucieusement aménagée en habitation. On s'est aperçu sur le triangle d'autoroute d'Aubagne qu'on pourrait loger pas moins de 30 000 personnes en comptant 5 étages répartis de chaque côté de l'autoroute avec au milieu un boulevard urbain. Ça va être quand même agréable à vivre. Et figurez-vous qu'en appliquant ce procédé de autoroute astucieusement aménagée en habitation sur l'ensemble du réseau autoroutier français, soit 10 000 km, on s'est aperçu qu'on pourrait loger 60 millions de personnes, faisant doubler la population de la France sans créer d'étalement urbain. Et Aubagne pourrait être vraiment une ville pilote.
Voilà la chronique de Laurent Petit qui fait marrer Stéphane Marin, qui lui habite à la campagne. Que penses-tu, Pierre Sauvageau, de cette autoroute astucieusement aménagée en habitation ?
Bah, ça me paraît la seule solution. De toute façon, c'est la seule solution. Et là-dessus, vous savez que ça fait maintenant la quatrième année qu'on travaille avec l'Agence nationale de psychanalyse urbaine qui fait à notre demande le tour des névroses du territoire. Et le problème des névroses de ce territoire, c'est que plus on les étudie, plus elles augmentent. Et donc, forcément, on va être obligé, nous, de continuer avec ces agents jusqu'au moins en 2013, de manière à pouvoir essayer de dénouer cette espèce de grand nœud capital et néanmoins européen. Et on a besoin au moins d'une équipe à plein temps de psychanalystes urbains.
Alors, nous a raconté Laurent Petit que la première psychanalyse urbaine qu'il avait fait, c'était à Vierzon, et il avait failli finir en une émeute des habitants qu'il aurait couvert de goudron et de plumes. Là, samedi dernier, il faisait le cas Martigues, donc il restituait un peu les éléments qu'il a recueillis pendant ses enquêtes sur Martigues. T'as assisté à la restitution, c'est bien passé, pas de goudron, pas de plumes.
Ça a été extrêmement violent, bien sûr, parce que vous savez, quand un psychanalyste vous dit un peu, vous remet en face de vos réalités, c'est dur. Donc, il y a eu quand même plusieurs propositions assez fortes. D'abord, il a découvert que contrairement à ce qu'on croit, le mariage de Gyptis et de Protis ne s'est pas du tout passé à Marseille, mais à Martigues, et que là, il a retrouvé, donc en fait, c'est une usurpation de la part de Marseille, de la place centrale, donc ça, c'est un premier point extrêmement important. Et la deuxième, il a proposé quand même, pour que Martigues ait son grand totem, une statue de Paul Lombard de 800 mètres de haut, Paul Lombard qui, dans l'ancien maire, qui a été pendant 40 ans maire, et qui porterait sur son doigt un pont tournant. Voilà, qui était donc une proposition assez audacieuse, de manière à ce que, voilà, qu'il y ait un peu comme le Bilbao, le Guggenheim à Bilbao, des choses comme ça, qui est un signe très fort, et que c'est une proposition qu'il a proposée. Également, la transformation, vous savez, il y a une maison natale de Charles Maurras à Martigues, dont personne ne sait exactement quoi faire, et il avait proposé de la transformer en CDIE, je dis ça de mémoire, c'est-à-dire le centre de désintoxication des idées extrêmes, et donc la repeindre en bleu, blanc, rouge, et donc c'était aussi une proposition très concrète. Donc ce qui est bien avec la NPU, c'est que voilà, c'est pas simplement on a des propositions très concrètes et qui ont été notées par les participants.
Ce qui est amusant avec la NPU, c'est que c'est la figure de l'artiste qui vole au secours des territoires et des populations.
Ce qui est assez remarquable dans le travail de la NPU, c'est ce mélange entre le vrai et le faux, le sérieux et le drôle. Et d'ailleurs, c'est un couple qu'on parle tout le temps de Laurent Petit, qui est évidemment le comédien et qui a une faconde et un humour, etc. Mais en même temps, il travaille avec un urbaniste qui s'appelle Charles Arthoffer, qui est donc un des membres du collectif Existe, et qui est donc un vrai urbaniste, lui, par contre, et qui, toutes ces espèces de constats, de regards, de plaisanteries, etc., c'est là où elles sont fortes. C'est juste pour faire des jeux de mots, etc. Bon, c'est vite, vite au bout. Là, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, les propositions sont comiques, mais elles sont vraiment basées sur des constats qui sont forts, qui touchent les gens. Donc voilà, on est sur une proposition très intéressante pour moi.
Le public touché, c'est quelque chose aussi qui s'était passé à Martigues pour toi l'année dernière avec Chant Harmonique, parce que on se souvient que cette année, à ce moment-là aussi, il y avait eu du Mistral, il y a eu quelques dégâts dans l'installation, et tu disais que ce qui t'avait assez surpris, c'était un public qui se promenait là-dedans, il y avait des trucs cassés, et le public disait non, mais c'est pas grave, c'est bien quand même, c'est un public qui avait envie que ça marche.
Alors oui, ça m'avait frappé. Alors là-dessus, il y a une idée spécifique sur Chant Harmonique et puis une idée plus générale. L'idée plus générale, on parlait avec Stéphane Marin à l'instant de ce qu'on appelle nous maintenant l'art contextuel, c'est-à-dire que quand un projet artistique, il est juste à un endroit, il y a tout d'un coup une espèce de magie qui se fait et que tout d'un coup, oui, ça pouvait pas être autrement. En Angleterre, on a installé Chant Harmonique et quelqu'un m'a dit une des choses les plus belles que j'ai entendues sur Chant Harmonique, c'est que elle m'a dit, voilà, ça fait 50 ans que je viens faire mon jogging tous les jours sur cette colline, et votre projet, il était déjà là avant que vous arriviez. Je l'avais pas nommé, je l'avais jamais vu, mais maintenant que je le vois, je dis oui, en fait, il était présent depuis 50 ans. Donc ça, pour moi, c'est évidemment un compliment assez formidable. Et c'est un peu du même ordre, c'est vrai qu'on avait eu un peu de Mistral et un peu de Casse, donc le lendemain, en plus, d'une part, il y avait Calme Plat, et d'autre part, des instruments qui marchaient pas. Donc, il y avait peu de sons, très peu de sons. Et que j'étais étonné que beaucoup de gens étaient là et vraiment contents parce que C'était ce type de projet qu'il voulait à ce moment. L'artiste de création, en tout cas, il se doit d'être opportuniste. Alors, j'emploie volontairement le mot opportuniste, parce qu'opportuniste, évidemment, c'est un mot très péjoratif. Mais si on n'est pas opportun, si on n'est pas au bon moment, dans le bon creux de la société, si on n'est pas juste là comme révélateur d'une envie de société, on passe à côté. Ou on a 20 ans d'avance ou 20 ans de retard, ce qui, par ailleurs, est exactement la même chose. Mais pour être juste, tout d'un coup, pouvoir toucher, faut être... Ah, c'est ça qu'on voulait, justement. Voilà. Quelles que soient, par ailleurs, les qualités, les défauts, les problèmes techniques, les problèmes d'exécution, c'est autre chose. Mais en tout cas, la pertinence du projet, oui, c'est ce projet-là que j'avais envie qu'on crée.
Là, dans Chat Harmonique, comme dans Un Parapluie sur deux, c'est le principe du parcours sonore. C'est des gens qui se promènent, installation sonore. Bon, il se trouve que Parapluie, le pépin pour deux, c'est avec un casque et le son, et voilà. Mais on est dans l'idée de parcours sonore pour les deux.
Je crois que le parcours, c'est de toute façon, qu'il soit sonore ou pas sonore, c'est quand même de toute façon déjà un scénario. Je veux dire, c'est une des questions. C'est pour ça que d'ailleurs, les arts de la rue, depuis longtemps, on fait des déambulatoires, les parades. Parce que, de toute façon, au moins, il se passe quelque chose. Ça écrit quelque chose. Bon, après, il y a mille choses différentes. Sur Harmonique, on est bien sûr, c'est le parcours qui fait l'œuvre. Parce que, on peut pas l'écouter autrement. Parce que ça, on reste là, puis on entend un truc qui fait ding, 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 ding pendant deux heures. Bon, faut avoir une envie, voilà, très, 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 très forte de musique répétitive. Pour rester pendant deux heures à côté du même instrument. Donc la composition se fait par le mouvement. Sur Pépin sur deux, c'est plus complexe, puisque la composition, elle déroule sur un système... voilà, elle a sa temporalité, ou ses temporalités, puisque Stéphane Marin expliquait qu'il fallait se recaler de temps en temps sur un endroit. Mais je crois que la notion du parcours, elle est très très intéressante. Je
veux dire, et c'est le même type de rapport au public dans les deux, selon toi?
Non, enfin, je crois que c'est très différent. Là, je ne parle pas pour Stéphane, mais Pépin Purbain 2 est un espèce de jeu assez en abîme, assez amusant, parce qu'à la fois, il emmène des gens dans une intimité, parce que l'écoute sous casse, c'est une intimité, partagée à deux, et en même temps, en situation de représentation, parce que quand on se balade dans la gare Saint-Charles avec un parapluie sur la tête, en train d'écouter un casque, on est en représentation. Le public est en représentation, il le sait d'ailleurs. Donc, il faut marcher de telle et telle manière, parce que... Et puis, il y a des moments où, tout d'un coup, les gens oublient la situation parce qu'ils sont fascinés par ce qu'ils sont en train d'écouter, par ce qu'ils sont en train de voir, par le rencontrer les deux, et donc tout d'un coup ils en oublient qu'eux-mêmes sont objet des regards, voire des plaisanteries des gens qui passent par là.
Stéphane, tu veux dire un mot là-dessus?
Oui, enfin c'est clairement enfin un travail qui est différent quoi. Il y a une autre notion quoi. Nous on va proposer un parcours qui est il a été balisé autant que je sache dans Chant Harmonique, on se promène librement à travers des installations et on se fait son mix hein, en fait.
Il y a un parcours
qui est
ouais,
proposé,
qui est fléché, ouais, qui est proposé d'accord, mais d'accord. Après ouais.
On le fait oreille nue. Le rapport est, je dirais, principalement musical et le plaisir des timbres. On a un travail qui se fait quand même autour du sens aussi, qui sollicite le je dirais pas l'intellect, mais qui va travailler sur le sémantique hein, et sur des voix qui sont aussi des voix, je dirais, qui sont issues de voix témoignantes qu'on repoétise. Donc c'est sûr que là, on a deux données, l'écriture textuelle et l'écriture des témoignages. Qui fait que en dehors du fait qu'on soit en promenade, les projets soient très très différents. Mais je crois que là il y a quelque chose qui est oui qui est pas si neuf, mais il y a une envie là de parcourir, il y a une envie de promenade, de parcours, de balade qui est forte en ce moment, et je pense que c'est assez symptomatique d'un moment d'un kairos, là, ce moment opportun, le ce que les Grecs appelaient le kairos, quoi, le moment opportun.
L'acmé. On va écouter un extrait de une sorte de mix qui a été fait à partir des enregistrements de Chant Harmonique. Alors Chant Harmonique qui fait pas partie de la programmation Small is Beautiful, hein, c'est l'occasion de Martigues, le parcours sonore, tout ça. On écoute ça et on se retrouve juste après avec Pierre Sauvageau et Stéphane Marin et Nicolas Mémin.
Thank you.
Voilà, les sons de chant harmonique enregistrés et remixés par Pierre Sauvageau pour proposer un petit module sonore comme ça, bien sympathique. Pierre Sauvageau qu'on retrouvera tout de suite après la promenade du jour pour parler de Nicolas Mémin, qui pour parler du concert du public, donc qui clôturera cette 5e édition de Small is Beautiful samedi 16 octobre. Donc Nicolas Mémin, il est un montreur d'ours en béton, un urbaniste gonzo, il nous propose chaque soir une promenade du jour, et la promenade d'aujourd'hui, c'est le métro.
Idéal pour faire une petite promenade, le métro de Marseille, je l'ai fait, je vous le conseille à tous, c'est très bien, on ne voit pas le soleil, mais on voit plein de jolies filles, ce qui fait qu'on passe une très bonne journée sans quitter les souterrains. Qu'est-ce qui est intéressant à voir dans le métro ? Alors, c'est le premier métro provincial français, hein, avant celui de Lyon, hip hip hip. Il date pour le premier tronçon qui est de la gare Saint-Charles à la station La Rose. Il date de 1977, donc il a 34 ans. Rendez-vous compte à quel point il est vieux. Le métro, le matériel roulant lui-même est assez sympathique. Il est tout en rondeur, hein, caractéristique des années 70. Il faut que tous les angles soient arrondis en quart de rond. L'extérieur, il est blanc, il a ce petit regard bas. Il roule sur pneus, ce qui lui donne une allure un petit peu caoutante comme ça, là, mais pneumatique, caoutante pneumatique. Et l'intérieur est un espèce de rêve. Maintenant, c'est une pièce de musée. Ils sont en train de refaire les intérieurs petit à petit, mais reste quelques rames d'origine. Vous avez donc tout en plastique orange, avec le sol, là, c'est le sol à pastilles Pirelli, là. Les sièges avec les sièges, c'est une espèce de châssis en alu léger, et puis dedans vous avez des coques polyester rotomoulées, la coque en plastique marron. Tout ça, alors le orange, ma théorie sur le plastique orange, c'est que ça, dans le délire années 70 un peu utopiste de changer le monde, le plastique orange aurait pu prendre la place de l'or. L'or dans notre société a une place très importante, c'est celui de la valeur absolue. On aurait pu le remplacer par du plastique orange, c'est une espèce d'or démocratique. Et vous avez les vitrages bronze, ce qui fait que quand on regarde nos reflets à l'intérieur, on se voit toujours bien bronzé. Alors voilà pour le matériel roulant. Et puis pour... alors plein de choses, hein, je raconterai au fur et à mesure. Les stations sur le premier tronçon Saint-Charles-La Rose, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont pris un coloriste dans la conception, et qui a eu une espèce de théorie de, en prenant le métro, on va traverser un arc-en-ciel. C'est Cross the Rainbow. Donc je vous fais les couleurs de l'arc-en-ciel. La Rose, c'est rose. Frévalon, c'est rouge. Malpassé, orange. Saint-Just, orange jaune. Chartres, jaune. 5 avenues, jaune-vert. Réformé vert, Saint-Charles ne compte pas, c'est trop compliqué. Colbert serait plutôt bleu. Enfin voilà, vous voyez, on traverse l'arc-en-ciel, on traverse la gamme des couleurs de l'arc-en-ciel. Et après, chaque station est censée parler du quartier au-dessus d'elle et l'expliquer un petit peu. Alors, les grands moments, c'est par exemple Désiré Clary sur la ligne 2, qui nous parle de la rue Désiré Clary qui est au-dessus, qui en fait auparavant s'appelait la rue Clary, mais c'était le père de Désiré Clary qui était, je crois, un industriel local. Et on a changé le nom de la rue pour Désiré Clary, qui est une figure un petit peu connue des historiens. Elle a été femme d'empereur ou impératrice en Suède. Et la station raconte cette histoire. Donc vous avez des portraits officiels de familles royales repris en style pixel des années 80 avec les gros carrés. Vous avez des espèces de portraits en médaillon où on voit Napoléon et puis Désiré elle-même, qui était assez jolie, un peu métisse, un bel hommage aux populations au-dessus. Vous avez aussi une espèce de mur en train d'être déconstruit dans la station avec un profil de ruine, et le profil de ruine reprend le profil de la Scandinavie pour expliquer que Désiré Clary s'est retrouvé en Suède. Et puis le plateau, la mezzanine, là où vous avez les tourniquets, se retrouve au-dessus des quais du métro avec une grande baie vitrée qui permet de voir passer les trains. Voilà une belle station. D'autres belles stations, Malpassé est très très belle, hein. Elle est complètement à ciel ouvert entre les deux voies rapides de l'avenue Einstein. On regarde tout le paysage des quartiers nord, on est en plein vent, en pleine lumière, très agréable. Notre-Dame-du-Mont, cours Julien, raconte l'histoire du cours Julien qui était l'ancien marché de Gros, donc vous avez de très belles peintures de légumes, de fruits et légumes par Jean Quilici, qui est un peintre de l'école provençale récente, fin 19e, très brossé, très enlevé. Je crois que je préfère les citrons à tous les autres. Vous avez alors Noailles, le musée du métro, avec des maquettes. La station à côté du stade, la Rond-Point du Prado, raconte les activités sportives. Alors vous avez au-dessus de la station, sur la mezzanine, une petite pyramide. On est à la même époque que la pyramide du Louvre. Et puis sous la pyramide, des grands panneaux en tôle émaillée. Alors vous avez comme activité sportive le foot. Très très belle image comme on a dans les journaux sportifs. Là, ces espèces de corps hyper musculés flottant dans le vide en plein effort. Vous avez aussi la voile, très marseillais. Ça, hein, cette espèce de sport détente, notre golf local. Et si vous regardez bien, caché, il y a une jeune fille sur un manège. C'est une espèce de petite blague, comme quoi faire du manège serait aussi un sport. Le métro Bougainville, qui est à ciel ouvert, qui a un objet très sculptural, qui ressemble un petit peu à un vaisseau spatial atterri là. Les architectes voulaient le faire ressembler à une plateforme pétrolière afin qu'il s'intègre dans son environnement industriel et qu'il rappelle que ses terrains ont été gagnés sur la mer. Donc voilà, métro Bougainville. Je trouve qu'elle ressemble plus à une Vénus néolithique avec des grosses fesses et des gros seins. Donc c'est une espèce de plateforme pétrolière Vénus néolithique. Voilà pour le métro Bougainville. Estrangin, idéal pour les défilés de mode. On n'y a encore jamais pensé. Très très élégante. Il y a, alors, vous regarderez comment est-ce que les gros barreaux inox dessinent des lignes souples pour pouvoir annoncer les ouvertures du plafond du quai où passent les escalators chromés. Vous pourrez regarder les détails de sol qui sont délicatement saupoudrés de teint camailleux. Il y a des espèces de taches légères de couleur pastel qui se diffusent lentement dans le sol. Et surtout, vous regarderez les murs. Donc sur les murs de la station Estrangin, vous avez ces habituels grands panneaux de tôle émaillée. Et là, c'est très subtil. Au premier regard, on a l'impression qu'il y a un bleu et un vert. Et lorsqu'on se concentre dans la pénombre de la station, on s'aperçoit qu'il y a deux bleus et deux verts, avec un petit demi-ton de décalage extrêmement subtil. Ça, c'est vraiment un jeu de peintre que d'arriver à attraper un deuxième regard, un regard prolongé. Si vous levez la tête dans les trous du plafond au-dessus de la station, vous avez à nouveau un capotage, mais à ce moment-là, quasiment cathédrale, c'est tout le plafond qui est capoté de ces grandes tôles. Et là, vous avez vraiment une espèce de délire de dégradé bleu-vert. En second regard, on a l'impression d'être dans l'abdomen d'une abeille. Ça fait un capotage très, très insecte. Et vous sortez de la station, vous avez tout le plafond de la grande rampe de station de métro qui est capoté pareil, avec ces tôles émaillées qui prennent les reflets, qui sont délicatement à un demi-ton de décalage dans les bleus et dans les verts. Voilà pour les plus belles stations de métro de Marseille. Passez-y une très bonne journée.
C'était la promenade du jour de Nicolas Mémin dans le métro marseillais. Donc vous écoutez La Grenouille, c'est Grenouille is Beautiful ou Small is Grenoutiful. En tout cas, une émission quotidienne entre 18 et 19h sur les 3-8 consacrée à la manifestation Small is Beautiful. Nous sommes en compagnie de Pierre Sauvageau, compositeur et directeur de lieux publics qui organise cette manifestation, et Stéphane Marin qui propose un pépin pour deux, qui est compositeur et qui propose un pépin pour deux à la gare Saint-Charles. Alors, la gare Saint-Charles, c'est un des lieux privilégiés de Small is Beautiful. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont passées déjà là-bas. Et là, Small y est installé pour 3 jours, donc aujourd'hui, mardi, encore mercredi et jeudi. Par contre, dans le métro, il ne s'est pas passé grand-chose, j'ai l'impression, en termes d'intervention artistique.
Non, il y avait eu un projet, mais on ne l'a pas mené jusqu'au bout. C'est pas, pour l'instant, on n'a pas trouvé les bonnes idées. Voilà, ce n'était pas volontaire, c'est comme ça.
Ah, d'accord. Ce n'est pas parce que c'est un lieu plus compliqué qu'un autre, en termes d'autorisation, ceci, cela.
Non, puisqu'on n'a pas demandé d'autorisation. Peut-être que c'est un lieu plus univoque que la gare. La gare, c'est un univers complexe. D'ailleurs, c'est très étonnant comment les gares sont en train de devenir des places publiques. Je veux dire, ça devient doucement à Marseille. Enfin, vous allez dans les grandes métropoles internationales, la gare, c'est devenu un quartier à lui tout seul. Et donc, on est bien d'ailleurs dans cette situation où les espaces publics sont en vérité des espaces privés. Parce que la SNCF, c'est privé, elle a ses propres règles, elle les applique. En plus, c'est normal, elle a ses propres règles de sécurité, il vaut mieux éviter que les gens passent sous les trains. Mais c'est pas la police nationale qui règle des choses, c'est la SNCF. Mais la gare du Nord à Paris, par exemple, c'est devenu une ville presque à part. Le Châtelet, les Halles aussi, c'est une ville à part. Donc c'est des enjeux pour nous qui nous intéressons à l'art urbain, évidemment passionnant d'aller fouiller, visiter, proposer à des artistes d'aller fouiller ces espèces de nouvelles agora, d'une manière ou d'une autre, que sont les gares.
Stéphane, t'as eu des difficultés particulières, toi, pour travailler à la gare Saint-Charles ou pas là?
Quelques-unes, oui. Ouais.
Et c'est-à-dire?
En ce qui concerne par exemple le balisage, il y a en fait la gare est en train de subir une conformité NF ou je ne sais quoi, et donc il est interdit pour nous de faire du balisage en vertical, donc on n'est que sur un balisage au sol et sur un matériau qui est stickers, antidérapant, etc. Donc on va pas du tout utiliser des ressorts qu'on avait déjà travaillé auparavant. Et puis après c'est l'accès à certains espaces, le fait simplement de devoir avoir des autorisations pour prendre du son, que ce soit justement dans le métro ou que ce soit dans la gare. C'est après, du moment où on les a, il y a un très bon accueil et les surveillants, etc., sont adorables. Et en effet, on découvre, je vais un peu plus loin que ça, on découvre cette nouvelle agora, quoi. Nous, on l'a trouvée en particulier dans l'arrière-salle de la gare Saint-Charles, que je vous donne en exclusivité, qui s'appelle le QG, quoi, en fait. C'est là où les danseurs hip-hop se réunissent le soir. Et en fait, là, on a un vrai centre social autogéré, qui sert aussi de dortoir la nuit. On en dit un peu plus in situ. Mais voilà, il se passe des choses curieuses et moins dans cette gare qui sont vraiment emplies d'humanité, donc qui sont du domaine de l'agora, quoi. On le fait ensemble et on gère des choses au-delà justement des lois et de. Il y a une autogestion à la gare Saint-Charles, le jour ou la nuit.
Pierre, toi en tant que compositeur, t'as déjà écrit pour des gares ou des choses comme ça ou...
Oui, j'ai beaucoup utilisé des trains. J'ai même fait une fois dans Ballet Mécanique, il y avait deux convois ferroviaires qui avaient 1 kilomètre de large et qui avaient une stéréophonie 1 kilomètre et qui se rapprochaient comme ça par une stéréophonie rapprochante. Oui, des trains, forcément, c'est très, très aspirant.
Alors, les autres propositions sonores, musicales qui figurent cette année dans Small is Beautiful, c'est le concert de public de Pierre Sauvageau et le Turbo Clap Station après. Alors Pierre, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est ce concert de public? Je crois que tu as créé ça au début des années 2000 à peu près.
En 2002, en septembre 2002, à la première de l'année des 13 lunes, concert de public, il a l'avantage de porter un nom qui est clair, c'est un concert de public. Donc c'est un concert réalisé par le public, dirigé par 4 chefs d'orchestre. Je tiens avec qui on travaille maintenant depuis bientôt 10 ans, Nadine Estève, Vincent Auda, Denis Cabachot, qui travaillent, qui ont été à l'origine de l'œuvre avec moi. Et donc, c'est 4 chefs d'orchestre avec tout un équipage qui va amener des instruments, les reprendre, un accompagnement musical de Nicolas Cande. C'est un concert de public, donc comment on peut faire une œuvre musicale écrite avec un début, un milieu, une fin, quatre mouvements, plus un final, très composé, extrêmement composé, très peu d'improvisation, voire pas du tout, et comment on arrive à créer de la musique, un mouvement musical uniquement avec un public qui n'a pas répété. Le public arrive, il est là, il est au courant, qu'il y a un concert de public, c'est tout ce qu'il sait, mais il va arriver et qu'est-ce qu'il faut faire, et donc comment on va réussir à faire un concert comme ça. Et donc, voilà, je ne vais pas tout vous raconter, mais...
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout le monde est musicien ?
Non, pas du tout. Tout le monde est musicien. Ça m'a amusé. Alors, ça, c'est de la démagogie absolue. Tout le monde est musicien. Mais il faut bien en faire de temps en temps. Tout à l'heure, j'étais opportuniste, je voulais être démagogue. Venez ressentir la musique de l'intérieur, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bien sûr, tout le monde n'est pas musicien et on s'improvise pas violoniste solo à l'opéra, même de Marseille, comme ça. Donc, ça demande un très long apprentissage, quels que soient les types de musique. En revanche, venez partager avec nous le plaisir de faire ensemble de la musique, c'est pas la même chose. Et c'est très, très jouissif, très agréable. Absolument épuisant pour les chefs d'orchestre. C'est absolument impossible à enregistrer parce que sur le moment, on a le sentiment de faire un truc hyper carré, hyper en place, hyper net, avec des couleurs sonores différentes, des rythmiques et tout. Quand on réécoute, on se dit « Oula !» Personne n'entend des choses pareilles. On revient à la question d'ailleurs de l'œil et de l'oreille. Hein, c'est-à-dire que quand on regarde, on n'écoute pas de la même manière. Et c'est un moment assez magique. Donc comme vous savez, sur Small is Beautiful, il y a 24 projets artistiques dont une quinzaine sont soit des créations, soit même des tentatives, des essais. Donc ça fait beaucoup. Il y a très très peu de projets clés en main, des choses un peu solides. Mais en même temps, de temps en temps, à un moment, je me suis dit, oh là là, quand même, on prend beaucoup de risques. Parce que mettre que des choses qui sont non seulement des créations, mais vraiment souvent des essais, hein, que vraiment des premières fois de projets pas terminés, etc. Il y a un moment où le public il dit bon, on vous aime bien, mais on voudrait pas quand même que essuyer les plâtres. On aimerait bien aussi des trucs qui marchent. Donc dans l'ensemble des propositions, il y en a quelques-unes. Il y a par exemple Transport Exceptionnel, ce duo incroyable entre une pelleteuse et un danseur qu'on va faire au bagne, qui est un bijou. C'est un bijou. Par contre, c'est une pièce solide. Tout le monde le sait. C'est un des grands bijoux de l'art en espace public de ces 10-20 dernières années. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que le concert public est un des bijoux aussi, mais en tout cas, c'est une pièce qui est solide, qu'on a joué déjà une centaine de fois, on sait bien... Bon. Et puis, il y avait un contexte un peu particulier, c'était Saint-André. Saint-André, c'est le lieu d'implantation du public depuis maintenant plus de 10 ans. Lieu public va en partir, probablement, parce que, les calendriers à Marseille sont ce qu'ils sont, mais disons, il est probable qu'on déménage d'ici l'été prochain, donc on voulait aussi faire un petit adieu un peu particulier, et que donc voilà, moi en tant que directeur du public et artiste, tout d'un coup je dise aux gens de Saint-André, je vous donne ça, on va le faire ensemble, voilà. Ça veut pas dire qu'on va ne plus aller à Saint-André, hein, mais ce sera forcément plus exactement la même chose.
Un adieu à un an, presque un an avant de partir, c'est... Les choses bien à l'avance. Cette journée-là, du 16, c'est la seconde, une autre proposition musicale, c'est le Turbo Clap Station, c'est quoi ça ?
Bon, en fait, là, on est dans le domaine de concert, mais c'est quelque chose d'assez... c'est un orchestre qui s'est fabriqué sa musique et qui a fabriqué tout un système d'amplification particulier, fait uniquement avec des trompes. Des trompes de sound system indien. Dès qu'on arrive dans les pays plus pauvres, il n'y a pas forcément des super sonos et tout ça, et les gens bricolent. Et quand ils bricolent des systèmes beaucoup plus simples, et en même temps, le timbre, le son, est beaucoup moins haute fidélité, mais en même temps, tout d'un coup, il a une vraie poésie, une vraie couleur. Et on avait envie de finir sur un espèce de moment quasiment un bal, un moment un peu de partage. Donc là, pareil, c'est pas une proposition, c'est pas une création, c'est pas vraiment une proposition d'espace public, mais pour finir 10 jours de circulation à travers le territoire, après avoir vu le Mistral obliger Jean-Georges Tartare à parler, à faire l'arbre à l'intérieur de l'atelier du public, on pouvait bien tout d'un coup finir par un bal sur la place Saint-André.
Qu'est-ce que ça a changé pour lieu public, le départ de Saint-André et l'installation à la Cité des Arts de la Rue ?
Alors, d'abord, des espaces de travail, pour ce qui est de l'accueil des compagnies, incomparables. C'est-à-dire que le lieu public va avoir des espaces pour accueillir en résidence, pour faire travailler les artistes, absolument incomparables. Ça, c'est indéniable. Il y a aussi l'intérêt de l'extérieur, c'est-à-dire d'avoir un extérieur qui est à nous, enfin, nous avec nos voisins, mais qui est un extérieur qu'on maîtrise. Puisque, évidemment, dans les périodes de répétition, travailler directement en vrai espace public, c'est pas toujours simple. C'est aussi important d'aller faire des essais dans le vrai espace public, mais là, on va avoir, voilà, les gens peuvent travailler en salle, ils peuvent construire, ils peuvent avoir un atelier de musique, ils peuvent avoir du dehors, hein, donc quand même commencer à simuler ce que c'est que l'espace public, et puis après évidemment travailler en ville. Donc ça voilà. Après, beaucoup de problèmes par ailleurs, de finition de bâtiments, de bureaux, etc. Mais on va dire que c'est des problèmes qui n'intéressent que ceux qui les subissent.
Stéphane Marin, on rappelle que Un Pépin pour deux, c'est les 11, 12, 13 à la gare Saint-Charles, de 16h30 à 20h30, départ toutes les 5 minutes. Après Un Pépin pour deux, quels sont les projets d'espace sonore ?
Il y a plusieurs idées. La première, il y a une envie en fait de continuer à travailler sous casque, mais j'aimerais en fait remettre... En fait, j'ai vraiment travaillé avant tout le son dans l'espace et donc la multidiffusion du son. Donc c'est un peu ma spécialité, mon dada. Donc c'est un peu curieux de me retrouver en stéréo sous un casque et j'ai bien envie de maintenant pouvoir jouer du dedans dehors, de ce rapport entre le casque et la multidiffusion. Donc ça c'est une envie qui pourrait être un petit plus sur le pépin ou autre. Il y a un autre projet là qui me titille. C'est un projet qui pourrait s'appeler Transport Public et qui serait une écoute sous casque de nouveau, mais faite dans les transports publics. Donc il y aurait traverse qui serait faite entre deux gares ou entre deux destinations en fait de train. Après, j'ai pas encore trouvé les titres pour le projet en métro ou le projet en bateau mouche ou le projet en bus. Voilà, il y a des envies aussi de concerts monumentaux. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire quelque chose pour la gare Saint-Charles, mais là, de nouveau en multiphonie, c'est-à-dire vraiment faire sonner les acoustiques avec du gros son, avec de l'espace, beaucoup d'espace. J'aimerais aussi faire peut-être du concert de colline, c'est-à-dire vraiment travailler sur des grandes, grandes dimensions. Voilà, pour ça, il faut avancer là-dedans, quoi.
Merci Stéphane Marin, Pierre Sauvageau d'avoir passé ce moment avec nous. On écoute la chronique des beaux parleurs, donc proverbe à titre, le grand frictionnaire de Jean-Georges Tartare et l'agenda du jour, et on se dit au revoir juste après.
Les beaux parleurs.
Mieux vaut être ici ou ailleurs que mort et enterré.
C'est pas faux.
Le mot du fictionnaire.
Des beaux parleurs.
Non ! De Jean-Georges Tartare !
Embrouille. Affaire douteuse. Des verbales de embrouiller. Synonyme : embobiner, emberlificoter, embarbouiller. Embrumer, endormir, enferrer, embûcher, embusquer, embuscader, empêtrer, empiéger, endormir, enfariner, enferrer, enfumer, engeigner, engluer, enjoler, ensabler, ensuiffer, entortiller, entourlouper. Le monopole du préfixe « en » dans les mots du vocabulaire de l'embrouille fait admettre « enculé » non pour son éloquence métaphorique, mais pour son orthodoxie préfixale.
Oh, l'agenda du jour ! C'est du lendemain.
Mercredi 12 octobre, préavis de grève gare Saint-Charles de 16h30 à 23h. Ça tombe bien, profitez-en. Ne restez pas à quai, embarquez gratuitement pour un voyage spectaculaire dans l'espace public. Voyagez en première sur www.lieupublic.com, wagon info, place des Marseillais, à Marseille.
Les beaux parleurs.
C'était Grenouille is beautiful, small is grenoutiful, small is beautiful sur les 3-8. Demain, mercredi 12 octobre, même heure, même onde, nous serons en compagnie des Tony Clifton Circus qui, après Rubbish Rabbit il y a quelques années, reviennent à Small dans les rues d'Aubagne pour la première mondiale de la mission Roosevelt. L'art dans la ville sur le 888, c'est aussi Evento à Bordeaux. Deux rendez-vous tous les matins sur la Grenouille jusqu'au 18 octobre. Deux rendez-vous à 9h30, les inventaires désinventés, et à 11h, l'éventail d'Evento. Toutes les infos détaillées et les sons en écoute sur radiogrenouille.com. C'était Sébastien Gély à la technique. Merci à lui. Bonne soirée à toutes et à tous.